Deutsche Welle Magazine Santé.
Les mutilations génitales féminines, on en reparle une fois de plus dans ce magazine Santé. Nous irons au Mali où les associations s'activent sur le terrain pour que cessent des pratiques comme l'excision. En seconde partie d'émission, nous ferons un point sur l'impact de l'insécurité sur le système de santé en Libye. Carole Assignon micro, vous écoutez le magazine Santé. Considérée comme une violence à l'égard des femmes et des filles, une atteinte à leurs droits fondamentaux, les mutilations génitales féminines, en l'occurrence l'excision, continuent pourtant d'être pratiquées dans des pays comme le Mali. Le taux de prévalence de cette pratique serait de 91% chez les femmes âgées de 15 à 49 ans et de 109% chez les jeunes filles de 0 à 14 ans dans le pays. Un taux qui reste inchangé en dépit de multiples campagnes de sensibilisation, selon le programme national de lutte contre l'excision au Mali. Bien que la pratique mette en péril la santé des filles et des femmes, selon les organisations féminines sur place, les campagnes de sensibilisation pour son abandon peinent à atteindre leur objectif. C'est donc un combat qui se gagne au prix de la persévérance que mènent les organisations de défense des droits des femmes et des enfants dans la lutte contre les mutilations génitales au Mali. La formation et la sensibilisation demeurent donc des armes redoutables pour ces organisations pour un véritable changement de mentalité. Mahamadou Kane est allé à la rencontre des acteurs engagés dans cette lutte contre les mutilations génitales féminines au Mali.
Un centre d'écoute et d'orientation, voilà ce que propose l'APDF, l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes aux victimes des mutilations génitales féminines au Mali. Elle procède à cet effet à une série de sensibilisations et de formations à l'endroit de la population sur les méfaits de cette pratique. En termes de stratégie, les membres de cette organisation qui a vu le jour il y a 27 ans multiplient les initiatives. Connaît Ami Diakité, membre du bureau exécutif national de l'APDF.
Les jeunes parlent aux jeunes sur les conséquences néfastes des mutilations génitales féminines. C'est pourquoi nous avons initié un projet, la caravane des jeunes sur les méfaits de l'excision. Donc ça consiste à prendre des jeunes d'une localité. Si on prend la région de Ségou, on prend un nombre déterminé, 6 à 8 jeunes, 10 par cercle. Donc à chaque cercle, la caravane fait des sensibilisations.
L'Association malienne pour le suivi et l'éradication des pratiques traditionnelles néfastes, connue sous le sigle de l'AMSOPT, sensibilise aussi sur les méfaits des mutilations génitales féminines, mais en milieu communautaire. Elle intervient dans plus de 300 villages à travers ses antennes dans tous les pays. Brahima Balo, chargé de programme à l'AMSOPT.
Nous voulons informer les communautés sur les méfaits qu'engendre la pratique de l'excision. Pas seulement l'excision, mais il y a les mariages d'enfants, les autres violences basées sur les genres. Nous les expliquons, nous engageons les dialogues. Parfois, c'est pas facile. C'est-à-dire, il faut amener la communauté à prendre conscience que c'est pas un combat qui est imposé par l'Occident. Nous, Maliens, nous sommes aussi intelligents. Nous avons compris que l'excision est une mutilation qui ampute des organes clés de la reproduction chez la femme et de ce qu'on entrave sa vie sexuelle, l'accouchement. Bref, son épanouissement.
Évoquer la pratique ou l'abandon de l'excision est un exercice périlleux dans une société malienne ultra conservatrice, partagée entre le poids de la tradition et le lobby des religieux. Kadiatou, communicatrice.
C'est plus une pratique qu'on dénonce un peu plus en haut, mais dont on craint d'en parler autour de nous, au sein de la société réellement, d'où cette difficulté d'arrêter la pratique. Ça continue de plus belle, notamment, je dirais, plus à Bamako que dans les régions. Le monde rural a plus été sensibilisé sur la nécessité d'arrêter vu les impacts néfastes sur la santé.
Pour Aminata, jeune mère de famille, c'est plutôt la méthode utilisée qui pose problème.
Moi, personnellement, je ne suis pas contre, mais je suis pour la manière médicalisée faite par des professionnels qui savent où aller et avec quoi faire le travail. Mais la manière des vieilles personnes avec des instruments qui ne sont pas stérilisés, c'est cette manière-là que je désapprouve.
L'État malien a signé et ratifié toutes les conventions relatives aux droits des femmes et des enfants et dispose d'un programme national de lutte contre l'excision, le PNLE. Mais en l'absence de législation en la matière, le pays devient un terreau fertile pour les excuseuses de tous bords. Brahima Balo, chargé des programmes à l'Association malienne pour le suivi et l'éradication des pratiques traditionnelles néfastes.
Il n'y a pas une loi spécifique qui interdit la pratique de l'excision, si bien que cela encourage d'autres excuseuses qui quittent nos pays voisins parce qu'il y a la loi chez eux pour venir exciser nos filles ici et les filles d'autres pays voisins parce que notre espace législatif est mieux sur la pratique de l'excision.
Selon la dernière enquête démographique de la santé qui date de 2012, le taux de l'excision s'élève à 91% au Mali. Autant dire que le chemin qui mène à l'abandon de la pratique des mutilations génitales féminines reste long et semé d'embûches pour les organisations de défense et de promotion des droits des femmes et des enfants. Mahamadou Kan à Bamako pour la Deutsche Welle.
Hôpitaux cibles d'attaque, des agents de santé, des patients victimes d'agressions. Selon un récent rapport des Nations Unies, la violence en cours en Libye a un impact significatif sur la fourniture de soins de santé dans le pays. Le rapport couvre une année d'attaque contre des installations médicales et du personnel médical ainsi que des patients du 1er mai 2017 au 1er mai 2018. La méthodologie utilisée pour documenter les violations a été réalisée à travers des entretiens avec diverses parties prenantes. Parmi ceux-ci, le personnel hospitalier, les patients, les témoins, les travailleurs humanitaires, les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes. Ces enquêtes sur place révèlent notamment que des travailleurs de la santé ainsi que des patients ont été agressés, intimidés, menacés et blessés, généralement par des membres de groupes armés, lors d'attaques contre des installations médicales. Mathilda Bogner est chef du bureau des droits de l'homme en Libye, basé en Tunisie, elle explique.
La violence en Libye a eu un impact significatif sur la fourniture de soins de santé à travers le pays. Nous avons documenté des travailleurs de la santé ciblés ainsi que des patients et ils ont été agressés, intimidés, menacés et blessés, généralement par des membres de groupes armés lors d'attaques contre des installations médicales. En avril dernier, nous avons documenté un cas particulier à Saba, dans le sud du pays, où des hommes armés sont entrés et ont pris un patient de l'unité des soins intensifs, mettant sa vie directement en danger.
Mathilda Bogner donne un autre exemple encore plus frappant.
Nous avons également documenté la situation à Derma, qui est particulièrement préoccupante. C'est une ville à l'est du pays qui est entourée de forces armées, ce qui a causé des problèmes particuliers pour les soins de santé. Les patients qui tentaient de quitter la ville pour recevoir des soins médicaux d'urgence ont été retardés, mettant leur vie et leur santé en danger. Et les professionnels de la santé, lorsqu'ils entraient ou quittaient la ville, étaient arbitrairement détenus. Les attaques directes contre les installations médicales et le personnel sont interdites. Et les prises d'otages et les meurtres de blessés et de malades sont des crimes très graves et peuvent constituer un crime de guerre.
Des crimes et attaques qui portent un coup dur au système de santé. Le docteur Osama Sharif est coordonnateur des urgences sur le terrain pour l'Organisation mondiale de la santé.
Cibler ou frapper des établissements de santé affecte non seulement les prestataires de services, mais aussi les patients dans l'établissement. Car le service est fourni à tous les patients ordinaires, même les parties en conflit ont elles-mêmes des proches qui souffrent de maladies chroniques telles que le diabète. Les établissements de santé desservent tous les résidents de la région, que ce soit à Saba, à Benghazi ou dans une autre région de la Libye.
Face à cette situation, le docteur Jaffa Hussein, représentant et chef de mission de l'Organisation mondiale de la santé en Libye, se dit préoccupé par les attaques ciblées contre les travailleurs de la santé et les établissements de santé. Il appelle tous les groupes religieux et politiques du pays à agir.
Nous n'avons pas le contrôle sur l'arrêt des combats, mais nous pouvons faire un plaidoyer et un plaidoyer fort. S'il vous plaît, épargnez les centres de santé et les agents de santé parce qu'ils servent tout le monde, y compris vous. Et si vous les ciblez, vous réduisez la possibilité pour les gens d'avoir des soins de santé quand ils en ont le plus besoin. il doit y avoir une communication et un plaidoyer très agressif à travers les médias, à travers les dirigeants locaux, les chefs tribaux, les mosquées, les cheikhs et les imams.
De son côté également, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU demande à toutes les parties au conflit libyen à adhérer au droit international humanitaire et à mettre fin aux attaques. Mathilda Bogner.
Nous appelons également les commandants des groupes armés à condamner publiquement toute attaque contre des installations médicales ou du personnel médical et à instruire leurs subordonnés contre de telles attaques.
C'est dans ce contexte sécuritaire et sanitaire instable que la Libye accueille les vagues de migrants en provenance notamment d'Afrique subsaharienne. Récemment, une mission de l'OMS était sur place pour examiner la situation sanitaire des migrants dans le pays, ainsi que pour déterminer les besoins immédiats en matière de santé publique et discuter des meilleurs moyens d'y répondre. L'objectif de cette mission était de promouvoir activement une démarche mettant l'accent sur la couverture sanitaire universelle. C'est déjà la fin de ce magazine Santé. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.